Qu'est-ce que vous avez à dire sur le budget, vous?
Ah, c'était la grande messe, Paul, hein? Évidemment. Ben, évidemment, moi, le début est toujours pareil. C'est-à-dire que le gouvernement s'applaudit, puis les trois partis d'opposition sont fâchés. On le savait déjà.
C'est pas mal le scénario habituel.
On sort de ce tabou-là, qui est de la politique et du théâtre. Mais allons, baisse d'impôts pour les PME, parlons-en, parce que là, il y a Éric Brassard, que beaucoup de gens connaissent. C'est un comptable, mais bien connu dans le milieu universitaire et dans le milieu du placement. Il dit, écoutez, comme d'habitude, le gouvernement annonce une baisse d'impôts pour les entreprises, c'est les PME. Donc là, ça passe comme une baisse d'impôts. Mais les gens qui ne profitent pas de la DPE dans certains revenus et qui ont des revenus de dividendes, eux, par l'augmentation du crédit d'impôt, finalement se retrouvent à être plus imposés qu'avant sur leurs revenus de placement. Bon, c'est dit, hein? Évidemment, ça ne fera pas pleurer du monde qui n'ont pas de société incorporée, mais disons que le gouvernement a un peu d'incohérence là-dessus. Par principe d'intégration fiscale, quand tu diminues l'impôt, il faut que tu augmentes le crédit, mais il faut que tu t'assures que peu importe la façon dont tu te payes, l'impact fiscal net soit le même. Mais comme ça intéresse juste les fiscalistes et les gens qui ont de l'argent, je vais passer au sujet suivant.
Oh, c'est une bonne idée.
Hein? Je vais te parler des aînés. Bon, tu sais, il y a un crédit d'impôt pour les aînés. On aide les gens en donnant plus d'argent pour les gens à domicile. Évidemment, c'est quelques piastres, Paul. C'est symbolique. Et ça changera pas la décision d'un aîné de rester chez lui ou d'aller en CHSLD ou d'aller en résidence quand il sait que c'est à la fin de l'année qu'il va avoir de l'argent puis ça va y payer une portion d'une épicerie. Ça changera pas grand-chose. Mais on voulait mettre un chèque fleur de lys pour les aînés au niveau du crédit d'impôt puis de montrer qu'on donnait plus d'argent pour les gens qui étaient encore qui avaient des services à avoir à domicile. Le chèque de 100$ par session aux étudiants. Ça, Paul, c'est la technique Jean Chrétien. Hein?
Ben
tu
oui.
connais la technique Jean Chrétien? Ben oui. On va envoyer un chèque avec une fleur du Canada, tu sais, une feuille d'érable. Nous, on envoie un chèque avec une fleur de lys, mais deux fois. Un par session, mais c'est l'année passée, là. Allez pas vous inscrire à l'université pour 100$.
Non.
C'est l'année passée. Et l'autre affaire qui est intéressante, c'est de se dire, c'est un peu bizarre pour vrai, comme mesure. Puis je t'explique pourquoi. S'il y a bien une fraction moyenne de la population qui a reçu beaucoup de PCU par rapport à son revenu, c'est bien les étudiants. Donc, quand tu regardes l'aide fédérale, mettons que quelqu'un a reçu, je sais pas, 8, 10, 12 000 dans l'année en restant chez eux, puis là, tu y envoies un 200.
C'est sûr.
C'est un bruit de criquet, là. Tu sais, on s'entend, c'est-tu nécessaire, juste l'administration de tout ça. Puis là, il va falloir le demander, parce qu'on ne sait pas encore comment l'avoir, mais il va falloir le demander. Donc, juste l'administration de ça, on aurait pu juste laisser faire, pour vrai. Mais bon, tant mieux, hein, 200$, écoute. Ça sera le fun pour eux autres. L'élimination des intérêts sur la dette étudiante, bon, c'est une belle annonce, tu sais, de dire, hey, vous avez une année difficile, on va enlever les intérêts sur votre dette pour un an. Comprenons-nous, les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Si tu as une dette étudiante de 10 000 $ pour un an avec les taux d'intérêt, moins le crédit d'impôt qui existe déjà pour les intérêts sur les prêts étudiants, c'est pas une grande, grande dépense individuelle qu'on vient d'enlever. Mais c'est un beau symbole. On va le laisser là. Et là, on parle, puis Bernard, on a parlé, hein, low expectation, high delivery, c'est-à-dire l'autre stratégie, Jean Chrétien, qui était quand même bon en politique pour ça. Tu mets une croissance inférieure au privé. Tu dis, on annonce
mais ça, là, écoute, tous ouais. les ministres font ça, je pense, des finances. Je me souviens pas d'un ministre là, qui a décidé de jouer le frondeur haut du marché. Là.
Mais tu sais, cette année, c'est une belle année pour nettoyer des pertes, je trouve. Parce que, mettons que tu m'arrives pour vrai. Là, je suis comptable, moi. Là, je fais ça de ma vie. Là. Que tu me dises 13, 14, 15 ou 12,8 milliards, c'est tellement des gros chiffres, c'est tellement dans les mêmes eaux que ça ne changera pas la perception du budget. Alors, d'avoir été prudent, c'est une bonne idée. On nous dit on va en déficit, on s'en vient. Maintenant, le côté structurel, c'est intéressant. Parce que là, si tu as 6,5 milliards structurel, tu vas couper où?
Ouais.
Tu vas chercher l'argent où? Parce que ça, c'est maintenu, puis ça va être perpétuel si tu fais rien, année après année. Et ça a l'air petit, le budget, le déficit du Québec par rapport au fédéral. Mais n'oubliez pas une affaire, le Québec a plus de dépenses qui sont difficiles à gérer.
Ben, l'éducation, la santé. Ouais.
Et aussi, le fédéral a une capacité d'endettement différente.
OK, je veux t'entendre, parce que je vais le dire aux auditeurs. Tu m'as écrit quand tu as vu le rapport de la vérificatrice à Ottawa sur, disons, l'absence de contrôle sur la PCU. Et, tu me l'avais dit.
Je te l'avais pas dit. Je te l'avais dit mille fois.
Tu nous l'avais dit mille fois. Alors, ben moi, hier, je regardais ça sérieusement, là, de me faire dire, mais je m'en doutais un peu, mais en même temps, c'est une situation de crise.
Ouais.
Le contrôle à la frontière, on s'entend-tu que c'est pas fort? Sur la quarantaine, tu sais, on leur disait, oui, mais est-ce que vous vérifiez? Ouais, ben, t'aperçois que ça vérifie pas fort. Puis l'autre élément, c'est l'Agence de santé publique canadienne qui était comme dans une espèce d'état de coma depuis longtemps, puis qui a tardé à prendre des décisions. Mais parle-moi de la PCU.
Ben, la PCU, puis subvention salariale, c'est que ce sont deux programmes où la vérificatrice dit, écoute, on n'a rien fait, on n'a pas vérifié vraiment les numéros d'assurance sociale, est-ce que les deux systèmes se payaient en même temps? Parce que c'était trop compliqué, les systèmes ne pouvaient pas le supporter. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se demander, OK, au fédéral, regardez-moi dans les yeux et dites-moi, on n'aurait pas pu mettre un employé à temps plein qui prend la liste des numéros d'assurance sociale de Service Canada, la liste des numéros d'assurance sociale de l'autre département, l'ARC, puis qui compare les deux colonnes, même si le système ne crunche pas automatiquement. Là. Mais un fonctionnaire à 50 000 pendant 3 jours là-dessus, tu n'aurais pas pu faire ça comme contrôle préventif ou détectif, pour te dire « Oups, il y a une tentative de fraude. Oups, il y a une entreprise ici. » Ça ne fonctionne pas. L'autre affaire avec la subvention salariale, on nous dit « Écoute, il y a même des entreprises insolvables qui ont demandé de l'aide et qu'on n'a pas vraiment vérifié. Des entreprises qui n'avaient pas payé leurs taxes mais, ou qui n'avaient pas de taxes à payer, mais qui ont demandé de l'aide financière, ça ne fit pas parce qu'il faut avoir un chiffre d'affaires suffisant. » Donc, ce que la vérificatrice générale nous dit au niveau comptable, au niveau préventif des contrôles financiers, le fédéral a utilisé un petit peu trop la pandémie pour faire preuve de laxisme et pour envoyer des chèques. C'était quoi de retarder une journée?
Non, je sais, mais l'argument, c'était il faut que les gens aient de l'argent disponible, il faut.
Ça, je comprends.
Puis les entreprises.
C'est des mois et des mois et des mois. Donc, disons que le premier chèque, regarde, je vais être d'accord avec le fédéral, Paul. Le premier chèque, tu l'envoies sans demander. Tu envoies le premier 500$, le premier 1000$, tu le garoches dans l'univers. Mais là, pendant une semaine, après ça, tu dis « OK, extirper de nos systèmes, une fois par semaine, toutes les données de numéro d'assurance sociale, comparer les deux systèmes, ou assurez-vous que la personne existe, ou assurez-vous de faire un contrôle. » Au niveau financier, c'est quand même ridicule.
Attends, puis là, des cas de fraude, on le sait, là. On parle même pas de négligence, là.
Puis qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Ça va coûter cher en maudit vérifier tout ça parce qu'on a été trop au niveau du laxisme avant. »
Merci de nous l'avoir dit 1000 fois.
Salut.
Et 1001 fois, finalement.
Bye-bye.
Bye. 7h24, le ministre Éric Girard est avec nous tout de suite après ceci. Mais d'abord, petit coup d'œil sur la circulation.